au réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Il y a exactement 30 ans, très précisément à 5h15 du matin, le 11 juillet 1990, on peut dire que la situation est passée à la confrontation dans ce qui est devenu la crise d'Oka. C'est le 30e anniversaire. Les camions de la Sûreté du Québec avaient fait leur apparition au sommet de la colline de la route 344, où il y avait ce barrage. Et puis la situation, évidemment, a dégénéré. Il y a eu des échanges de coups de feu pendant presque une minute et demie. Et puis, il y a le caporal Marcel Lemay qui avait été atteint mortellement à l'aisselle gauche par une balle blindée. Évidemment, ça marquait le début de ce qui a été la très longue crise d'Oka. Et Denis Couture, qui est avec nous aujourd'hui, on a voulu marquer ce 30e anniversaire par, oui, un blocage du pont Mercier ce matin.
Voilà, vous savez, la crise d'Oka avait sévi dans le secteur de Kanisataké, mais aussi dans le secteur de Kanawake, tout près du pont Mercier qui avait resté bloqué pendant des jours. Et là, il y a une marche commémorative de la crise d'Oka par la communauté Mohawk qui se déroule à Kanawake aujourd'hui. La circulation est perturbée. C'est le 30e anniversaire, comme tu le disais, Paul. Et puis, la Sûreté du Québec est là pour le service d'ordre. La circulation a été bloquée en direction de Montréal pendant quelques minutes. Là, ça vient de reprendre, mais c'est un convoi qui circule très lentement sur le pont. On nous dit que le tout se déroule de façon très pacifique, mais la marche bloque quand même en direction de Montréal pour l'instant. On ne sait pas quand la circulation sera complètement rétablie. La ville de Mercier en Montérégie rendra le port du masque obligatoire dès le 15 juillet. Le conseil municipal sera convoqué mardi pour mettre en place la réglementation. Deux autres municipalités de la région, Saint-Chrysostome et Armstrong, ont pris la décision eux aussi, de le faire. Des initiatives qui surviennent à la suite là, de ces fêtes privées par des jeunes. Et le coronavirus a repris de l'importance dans ce secteur-là de la Montérégie.
Merci beaucoup, Denis. Il est 9h38. Ray Lalonde, bonjour.
Bonjour.
Ray, grande nouvelle hier. Et même les gens, les observateurs du monde du hockey, se sont étonnés de voir que les joueurs ont signé une nouvelle entente là, qui prolonge ce contrat entre l'Association des joueurs et les autorités de la Ligue nationale pour encore 4 ans, jusqu'en 2026, c'est-à-dire 4 autres années par rapport à la fin de ce contrat, à hauteur de 79 %. C'est une réponse enthousiaste des joueurs, ça.
C'est très positif, Paul, parce que ce que l'industrie du sport et l'industrie du hockey, dans ce cas-ci, a besoin, c'est une certaine forme de certitude de paix. Comme ça, les propriétaires peuvent se concentrer avec la Ligue à la génération de revenus. Bon, là, on dit ça et on est dans une pandémie. S'il y a une chose qui est moins sûre, c'est certainement d'être capable de projeter l'avenir financier puis économique. Mais c'est important, cette espèce de relation harmonieuse et de paix qui fait en sorte qu'on peut collaborer ensemble pour trouver des nouvelles façons de générer des revenus, incluant la participation aux Jeux olympiques, puis un peu de flexibilité puis de souplesse du côté du CIO qui va permettre à la Ligue nationale de hockey de générer des revenus davantage liés au sport international.
Et ça, ce qui est important ce matin, ça permettait à Yannick Bouchard de nous mettre la table, parce que là, maintenant, on a enfin un calendrier, un agenda très précis des prochaines semaines, des prochains mois dans la Ligue nationale de hockey.
Oui, puis la chose qui compte là-dedans, c'est que ça commence à prendre forme, Paul. Ça veut dire que les gens vont commencer à être beaucoup plus impliqués émotivement, si on veut. Parce que là, on sait que les Canadiens commencent leur camp d'entraînement officiel là, lundi à Brossard. Les équipes de la Ligue nationale vont ressauter sur la glace. On va repartir vers les deux Villebulles, Toronto et Edmonton, à peu près vers le 26. On va commencer à s'entraîner sur place, se familiariser avec les installations, puis commencer des matchs d'avant-saison, si on veut, et reprendre tout de suite la ronde de qualification. Fait que ça commence à être concret. Ça commence à être visible. Toute chose étant égale, s'il n'y a pas de crise encore plus grave là, qui empêcherait, comme on l'a vu dans la MLS, certaines équipes de participer, ça, c'est important pour l'avancement du hockey, puis ça va commencer à prendre forme d'une façon concrète, puis on va voir les matchs télédiffusés.
Oui, évidemment, on va falloir s'habituer d'ailleurs à voir du hockey sur glace à une période de l'année à laquelle on n'est pas habitué. Mais c'est surtout Yannick qui disait, c'est incroyable, il va y avoir une courte pause entre le moment où l'équipe gagnante va soulever la Coupe Stanley, coupe de semaines seulement, et puis bang, on repart pour une année complète.
Mais oui.
Ouais, mais l'enjeu financier est énorme, Paul, Thérèse, Yannick, comme vous le savez, là, c'est finir quoi, fin septembre, début octobre à peu près, là, puis reprendre littéralement les camps d'entraînement en début novembre, puis jouer le premier match le 1er décembre. Ça, c'est ce qu'on appelle tout un défi physique.
Mais tu sais, tu vas avoir des équipes qui seront terriblement en forme, pas trop fatiguées, qui vont avoir disputé le tournoi éliminatoire, qui vont sauter sur la glace en début de saison 2020-2021, en pleine forme. Mais Yannick, qui se soulignait, il y a 7 équipes là, qui sont au chômage depuis le 11 mars dernier et qui vont le demeurer.
Oui, ben je pense aux sénateurs d'Ottawa, entre autres, les Red Wings de Détroit qui ont fini dernier au classement. Ces équipes-là s'arrachent la tête, les cheveux à savoir quand est-ce qu'on peut jouer au hockey ensemble. Ça va être de mars à décembre. Incroyable dans la vie de ces athlètes-là. Ils n'auront jamais passé autant de temps loin de la compétition collective. Cependant, les gars vont pouvoir s'entraîner quand même. On va faire en sorte, je pense à la NBA, qui organise son tournoi eux aussi à Orlando, mais organise un autre tournoi, Paul, pour les 8 autres équipes à Chicago, dans une deuxième bulle. Donc, c'est possible que le hockey, un jour, se dise, ben, regarde, peut-être qu'on peut regrouper ces équipes-là pour créer une certaine forme de compétition. Ça va dépendre, encore une fois, de l'allure de la pandémie.
Ouais. Parlons de baseball. Les Mets de New York sont en vente.
Ouais. Ben, moi, je vais en parler rapidement parce que, premièrement, on est rendu dans les milliards. La dernière offre de Steve Cohen hier, c'était 2 milliards de dollars US. C'est la première ronde des négociations. Il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui est mené par J-Lo et Alex Rodriguez, pardon, avec une offre de 1,7 milliards de dollars. Un, c'est pertinent pour nous parce qu'on veut une équipe de baseball à Montréal. Il faut savoir comment ça va coûter, cette équipe-là. Qu'elle soit une équipe neuve ou une équipe partagée avec les Rays de Tampa Bay, ça coûte cher, le baseball. Deux, on a vu comment le baseball a eu de la difficulté à s'entendre sur le retour au jeu dans la pandémie. C'est une business très dure, puis il n'y a pas beaucoup d'harmonie, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure dans le hockey. Puis troisièmement, les Mets sont une des équipes les plus mauvaises, moribondes. Une des équipes qui ne performe jamais à la hauteur des attentes. Et cependant, la valeur est très haute parce qu'ils jouent dans un grand marché, New York. Ils sont des rivaux naturels des Yankees. Le stade est un superbe stade de baseball. Et donc, la valeur augmente quand même si les performances sur le terrain ont jamais
été. Ça, c'est vrai. T'as raison. On s'est souvent moqué, ridiculisé des Mets de New York. Sauf en 1969, lorsqu'on les a appelés les Miracle Mets, qui avaient gagné la Série mondiale.
Ouais. Et en 86.
Oui, si.
Ma mémoire est bonne, avec Gary Carter.
Avec Gary Carter.
Alors ça, c'était tout un souvenir pour ces gens-là. Mais ça fait longtemps. Mettons que ça fait longtemps, eux autres.
Mais
ça,
dans l'histoire...
Ça, c'est l'année du fameux roulant que Bill Buckner n'avait pas
adressé au premier. Exactement. Ouais.
Un triste souvenir dans l'histoire d'une carrière de Buckner qui avait été très, très haute, très élevée. Puis malgré tout, on va se rappeler de Buckner seulement à cause de cette erreur-là au premier but.
Le premier gérant des Mets, c'était un gérant très coloré. Il s'appelait Casey Stengel.
Ouais.
Et j'ai jamais vu un bonhomme coloré comme ça. Et on se moquait de son équipe. Et lui, il se moquait de son équipe aussi.
Ouais. Moi, je me souviens des Mets avec le lanceur Tom Seaver, Paul.
Ah ben oui, ça, ouais. Évidemment.
Tom Seaver, c'était un lanceur dominant dans les années fin 70, début 80. Là.
Ouais.
Et puis, les Mets, c'est quand même une équipe. Je suis allé au Shea Stadium. D'ailleurs, je suis allé au Shea Stadium quand je travaillais pour la NBA à New York, voir un match des Expos contre les Mets.
Puis c'était pas un très bel endroit pour jouer au baseball.
Non. Puis c'est un lieu mythique qui avait accueilli aussi un concert absolument spectaculaire des Beatles dans les années 60. Alors, tu sais,
juste à côté de l'aéroport.
Exactement. Le Shea Stadium n'existe plus. Ça a été remplacé, je pense, par le Citibank Field.
Exact.
Tout ça pour dire que les Mets ont besoin d'un nouveau propriétaire. La famille Wilbon, qui est propriétaire, là, doit débarrasser le terrain et donner une chance à un autre de pouvoir emmener cette équipe au sommet.
Un sujet très chaud, les Redskins de Washington sous pression. Deux gros commanditaires, FedEx et Amazon, disent l'équipe doit changer le nom du club.
Étonnamment, Paul, là, je pense qu'il va, Dan Snyder, le propriétaire, va procéder beaucoup plus rapidement. Ceci étant, là, rapidement, ça veut dire à peu près 2-3 ans. Mais FedEx, qui est le propriétaire mineur, Fred Smith, le fondateur de FedEx, est un propriétaire minoritaire des Redskins. FedEx commandite le stade, qui s'appelle le FedEx Field, mais il y a aussi de la pression de Nike, Walmart, Pepsi, Target et Amazon. Bon. mettons que ce sont des grands influenceurs. Et dans le cas d'Amazon, dans le cas de Walmart, ils ne veulent plus vendre de produits des Redskins. Donc là, déjà, là, tu sais, t'as comme une autre arme qui met de la pression. Et dans le cas de FedEx, ils ne veulent plus avoir le nom sur leur stade tant et aussi longtemps que ça demeure les Redskins. Alors, ça va changer rapidement. Le processus de changer le nom, un logo, les couleurs, là, Paul, c'est à peu près au minimum 12 à 18 mois, parce qu'il faut aussi que tu saches qu'il y a énormément d'enjeux sur les produits dans le marché actuellement en Amérique, puis on doit un peu, entre guillemets, liquider tout ça avant de procéder, puis il y a tellement de niveaux d'approbation, c'est un processus qui va être long, mais on s'en va dans la bonne direction.
Et savez-vous ce que j'ai apprécié cette semaine dans tout ce dossier-là des équipes qui voulaient changer de nom pour toutes ces raisons-là? Les Blackhawks de Chicago, Paul, on en a beaucoup parlé, Thérèse et Ray, les Blackhawks qui sont allés et qui ont expliqué pourquoi l'organisation ne changera pas de nom, parce que c'est un... Les Blackhawks, ça rappelle un personnage historique important de la nation Sac et Fox de l'Illinois, Blackhawk. Alors, je trouve que l'explication a été excellente. On s'est dit, on ne va pas à l'encontre de personne, on n'offusque personne et on va garder les Blackhawks de Chicago comme nom.
Oui.
J'ai trouvé ça excellent comme communication auprès des amateurs, et j'ai trouvé ça excellent aussi qu'ils puissent le dire librement sans offusquer personne.
Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, Yannick, les Blackhawks aussi, au cours des dernières années, ça date pas d'hier, ont développé des liens étroits avec deux nations amérindiennes de l'Illinois. Oui. Alors donc, on a... éviter tous les quiproquos et puis toutes les... et ça a été clairement exprimé. Mais Ray, il faut bien en convenir, il y a encore beaucoup de noms en circulation qui proviennent, qui font référence à des nations amérindiennes. Pensons aux Indiens de Cleveland, aux Braves d'Atlanta, une autre grande équipe, Florida State, les Séminoles de la Floride. Mais il y a des autorités des Séminoles, de la nation Séminole, qui a dit, nous, c'est... On reconnaît que l'université a rendu hommage à la nation amérindienne.
Oui, il faut les traiter cas par cas. Yannick a raison. Tu sais, dans le cas des Indians de Cleveland, Terry Francona, puis même le propriétaire de l'équipe, s'en va aussi dans la direction des Redskins. Ils acceptent l'idée que ça serait le temps de changer, puis on va le faire tous ensemble. Alors, dans le cas des Blackhawks, c'est un peu l'inverse. On va chercher un peu la solidarité, le rapport, le soutien de la nation.
Un peu comme Florida State.
Absolument. Les Seminoles. Et les Seminoles. La région du nord de la Floride où évolue à Tallahassee. Les Seminoles de Florida State, une équipe incroyablement importante pour l'État de la Floride dans le football universitaire américain. Alors, ça va aller dans différents sens. Il y a de la pression partout. Celle des Redskins a toujours été la plus publique. Et les gens aussi n'aiment pas Dan Snyder comme propriétaire. Donc, on veut un peu lui forcer la main dans ce sens-là. C'est peut-être un des pires propriétaires de la NFL en termes de performance lui aussi. Donc, ça serait une bonne chose de rafraîchir la marque de cette équipe-là à Washington.
Oui. En terminant avec, et ça c'est peut-être un effet du confinement, ça permet à une grosse société comme Sony d'investir une somme colossale dans des jeux comme les Epic Games et Fortnite.
La raison pour laquelle je veux souligner cet investissement-là, c'est 250 millions de dollars que Sony investit, Paul. En 2012, Tencent, qui est une grande compagnie numérique de commerce en ligne en Chine, avait investi 330 millions pour obtenir, en 2012, 40% de la compagnie Epic Games. Sony investit 250 millions, légèrement moins, obtient 1,4%. Ce que ça veut dire, là, c'est que cette machine-là, Epic Games, qui a une propriété qui s'appelle Fortnite, aujourd'hui vaut 17,8 milliards de dollars. Alors, même s'il y a un ralentissement dans toute l'économie mondiale...
Oui, mais justement, l'arrivée de la pandémie a peut-être justement augmenté la valeur de l'entreprise.
Bien, ça a augmenté la valeur. Ça n'a pas ralenti beaucoup la pratique des e-sports. Les événements publics ont été éliminés, bien sûr. Oui. Donc, il y a eu un petit ralentissement économique. Mais la pratique, puis les jeunes qui se tournent, puis cette génération-là qui évolue dans cet univers-là, ça continue de prendre de l'ampleur. Et de là, on voit le résultat. Sony, qui est évidemment un intervenant important dans le monde du divertissement puis du spectacle, et de la technologie qui se lient davantage avec Epic Games. On va continuer à produire des jeux de haut niveau et on va continuer à faire en sorte que Fortnite domine.
C'est ce qui est à la mode présentement avec les jeunes. Tu joues en ligne, chacun dans ton salon présentement.
Et voilà.
Peut-être 10, fascinant. 15, 20 en ligne. Donc, pas besoin de rassemblement, sport. Distanciation respectée, c'est parfait.
Tout à fait.
Mais tu as raison, Yannick. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai amené la pandémie. C'est que c'est l'avenir du sport confinement.
Oui, exact. Et la seule chose qui a été affectée, c'est les grands rassemblements publics de
e-sport.
Les autres, ça n'a pas ralenti.
Alors,
du tout.
Ray, on remet ça demain au retour de la pause. Thérèse.
Chez Walmart, trouvez des chutes de prix sur des milliers d'essentiels.